Cinéma, cinéma, Jacques Viguet, bonjour. Aujourd'hui, Marlon Brando 2. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Donc, nous avions vu dans Marlon Brando 1 l'ensemble de sa carrière, brossé un petit peu à grands traits, et souligné combien c'était un acteur exceptionnel qui alliait intelligence et instinct. Donc, on peut dire, pourquoi pas, mais je me rallierai quand même plutôt à cette opinion, que c'est le meilleur acteur de tous les temps. Alors, vous m'avez dit, c'est un qualificatif extrêmement poussé, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a peu d'acteurs qui le méritent. Donc, pour reprendre un petit peu la carrière de Marlon Brando. J'avais cité dans Marlon Brando 1 quelques pièces et quelques films. En particulier, je l'évoquerai moins, Un tramway dans mes désirs. Un tramway dans mes désirs va introduire, on pourrait dire, le sexe dans le cinéma grand public avec Tennessee Williams, qui, je l'ai souligné, est pour beaucoup dans cette approche. Donc, Marlon Brando crève le seuil du théâtre. Il va crever aussi l'écran. Et l'écran, donc, il a marqué avec sa violence et son machisme l'ensemble des spectateurs à cette époque-là, en 1951. Alors, il faut quand même ne pas oublier qu'il y a un premier film avant celui-là. Alors, je le cite pour mémoire parce que le sujet est original, non pas que Brando soit déjà au sommet de son art. C'est un film qui s'appelle « C'était les hommes ». « C'était les hommes », en fait, il s'agit de se situer dans un hôpital où se retrouvent les soldats de la Seconde Guerre mondiale qui ont été estropiés, qui ont été amputés, qui sont malades. Donc, pour Brando, il s'agit d'un soldat qui est paraplégique et on va suivre ses difficultés à accepter cet état de fait. Et encore une fois, le film n'est pas d'une originalité absolue au plan de la réalisation, mais c'est vraiment quelque chose d'original parce qu'il n'y a aucun film sur ce sujet. Il y aura un film sur la guerre du Vietnam qui s'appelle Retour en 1978 avec Jane Fonda. Et là, on aura le même sujet. Plus tard, il y aura Né un 4 juillet avec Tom Cruise qui aura le même sujet. Mais à l'époque, c'est assez étonnant parce que les deux films que j'ai cités vont se placer dans l'après-68 et la contestation de la guerre du Vietnam. Alors que là, on décrit un phénomène qui est issu de la guerre. Et encore une fois, il n'y a pas d'autres films qui vont l'évoquer. Alors, sur les trois films d'Elia Kazan, donc, Un tramway dans mes désirs, on en a parlé. Viva Zapata, donc, c'est. Zapata est moins connu que Pancho Villa, mais il a mené le même combat que lui contre Porfirio Diaz. Donc, c'est les révolutionnaires mexicains contre les dictateurs. Et on a Marlon Brando avec des cheveux bruns, une moustache brune, un accent. Le personnage, encore une fois, se met en avant. L'acteur s'efface derrière le personnage. Sur les quais, c'est le troisième film avec Elia Kazan, réalisé par Elia Kazan. Il s'agit en réalité d'une lutte d'un syndicaliste, on pourrait dire pur, contre un syndicat mafieux que son frère tient. C'est-à-dire son frère, c'est Rod Steiger. Alors, un mot sur Rod Steiger. Pourquoi ? Parce que c'est l'anti-méthode, l'anti-réussite de l'acteur studio. Rod Steiger a suivi l'acteur studio, mais chaque fois, il caricature ses personnages de manière assez forte. C'est assez rare qu'il soit sobre et intéressant. Vous avez par exemple « Il était une fois la Révolution » où son cabotinisme est peut-être accepté. Vous avez James Coburn qui fait l'Irlandais révolutionnaire et Rod Steiger qui fait le Mexicain avec toute sa famille et qui va être intéressé pour l'or plus par une dimension personnelle, mais que James Coburn va présenter comme une sorte de contestataire révolutionnaire, ce qu'il n'est pas au départ. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas refaire le film, simplement Rod Steiger est assez dans le cabotinage, même si ça peut convenir à ce film. Dans beaucoup d'autres films, il est au-delà de ce qu'on peut attendre, et il est parfois, on pourrait dire, ridicule. Donc, sur les quais, c'est sur les docks, donc la contestation se situe dans les syndicats sur les docks. On a prêté à Elia Kazan la volonté de se justifier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a 15 ans, devant ceux qui voulaient appliquer le macartisme, devant les commissions, il a mis en avant, il a dénoncé certains de ses collègues. Et ça, ça lui a toujours été reproché, notamment par Orson Welles, qu'il a toujours détesté. Et dans ce film, dans cette œuvre sur les quais, il va, en quelque sorte, valoriser, mettre en avant le syndicaliste pur qui est joué par Marlon Brando pour justifier que lui a fait tomber les mafieux, ceux qui avaient un pouvoir occulte. Donc là, la thématique du film est une thématique qui va correspondre à une forme de justification d'Elia Kazan qui réapparaîtra dans d'autres films. Alors, L'équipe est sauvage, je l'ai cité pour développer un petit peu. L'équipe est sauvage, donc, des motards arrivent dans une petite ville et vont causer des troubles dans celle-ci. Les habitants vont se rebeller, certains seront violentés, mais il y a le t-shirt encore, non pas le t-shirt de Un tramway dans mes désirs, mais une tenue de motard. Donc on a le blouson en cuir, on a la casquette, on a vraiment l'attirail du motard. Et qui justifie à l'époque l'image du rebelle. C'est-à-dire que le motard rebelle sur son véhicule, entre guillemets, sur sa moto Triumph, qui va du coup connaître un regain de vente à l'époque, toujours pareil, le succès d'un personnage, le succès d'un film conduit à des produits dérivés. Là, ce n'est pas des produits dérivés, c'est on achète la moto que Brando avait dans le film. Donc, L'équipe est sauvage marque la carrière de Brando à son tout début dans le prolongement de Sur les quais, avec cette valorisation de la masculinité en permanence, son côté macho qui est mis en avant. Alors, Jules César, qu'il tourne ensuite, c'est une sorte d'opposition, de contradiction avec ce qu'il avait fait jusque-là. Il veut montrer qu'il est capable de dire un texte classique. Jules César, c'est la pièce de Shakespeare, et vous avez le moment où César est tué, et ensuite, donc, il est exposé, et le personnage joué par Marlon Brando va faire un long discours, c'est un des morceaux de bravoure de la pièce, un des morceaux de bravoure du film, où il va expliquer qui était César. Et il va renverser l'opinion du peuple. Au lieu d'avoir un peuple qui va critiquer César, il va arriver à le retourner et à ce qu'il soit valorisé. Donc, Jules César, étape importante dans l'œuvre dans la carrière de Marlon Brando. Alors, il va tourner derrière immédiatement un autre personnage célèbre. Je cite simplement le nom, c'est Napoléon. Dans un film qui s'appelle Désiré, on décrit les amours de Napoléon Marlon Brando avec Désiré Clary, qui a été effectivement une de ses maîtresses importantes. Donc, le personnage historique apparaît à deux reprises, ce qui est amusant, à deux films d'intervalle. Entre Sur les quais, enfin, Jules César et Désiré sont entre Sur les quais. Et donc, ce personnage de Napoléon est, je dirais, une sorte d'anecdote pour Brando, mais ce n'est pas un grand film. Alors, il y aura ensuite un film important, c'est Les Révoltés du Bounty. Alors, Les Révoltés du Bounty, il y a eu trois versions, et les trois ont eu à peu près un certain succès. Celle-ci, donc, c'est la troisième, avec Trevor Noah qui fait le Capitaine Blight, et Marlon Brando qui fait Christian Fletcher. We'll be right back. Donc, Les Révoltés du Mounty, ni le premier ni le troisième, en fait, le deuxième sur le sujet. Le premier, c'était les années 30 avec Clark Gable qui tenait le rôle que tient Marlon Brando dans le film. Et il y aura un film dans les années, début des années 80 où c'est Mel Gibson qui tiendra le rôle de Christian Fletcher. Le Captain Blight est tenu dans la troisième version par Anthony Hopkins. Anthony Hopkins qui sera révélé 10 ans plus tard et en réalité qui était déjà connu par ceux qui aiment le cinéma depuis une vingtaine d'années. Et sur la version de 1961, c'est Trevor Howard qui fait le Captain Blight. La version de 1931, pardon, c'est Captain Blight, c'est le comédien anglais Charles Laughton. Et dans la version de Brando, c'est Trevor Howard. Bon, peu importe le nom des acteurs, ce film marque une étape dans la vie de Brando. Alors d'une part, on critique son personnage ou le jeu, parce que Christian Fletcher, qui est le bon pur et dur en 1931 et les années 80, là il devient une sorte d'aristocrate précieux qui va se comporter avec une forme de mépris pour d'autres personnes. Donc le personnage est antinomique de celui qu'on pourrait appeler le bon, celui qui va aider, celui qui critique le capitaine et qui va le contester. Donc le personnage est ambigu. Et c'est justement l'ambiguïté qui fait le prix même aujourd'hui avec le recul de ce film. Et d'autre part, il va découvrir la Polynésie. Et il va du coup se marier là-bas et il va vivre sur un îlot qu'il a acheté qui s'appelle Tetiaora. Il passera une quinzaine d'années sur cet îlot à faire des allers-retours, mais à y passer le plus clair de son temps. Dans Les Révoltés du Mounty, c'est important pour sa carrière, c'est important aussi pour sa vie personnelle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que avant Les Révoltés du Mounty, il y a 4 ou 5 ans, sans aucun film intéressant, sauf Le Bal des Maudits. Le Bal des Maudits, qui est en 1957, il joue un officier allemand qu'il interprète de manière ambiguë pour l'époque. Pourquoi pour l'époque ? Parce qu'en 1957, l'allemand, c'est toujours soit un méchant, soit un homme ridicule. Hein, homme ridicule, voire la grande vadrouille. Donc là, le personnage va combattre pour un idéal et il a cependant des motivations qui sont morales, même si son combat est un combat sans issue. Et l'intérêt aujourd'hui de voir ce film Les Bals des Maudits, c'est de comprendre comment Brando arrive à jouer, à nuancer un personnage et à lui donner un caractère particulièrement original. Donc, Le Bal des Maudits, c'est au milieu de cette période de 5-6 ans où il n'a pas de succès. Je passe sur certains films. Donc, La Vengeance au deux visages, j'en ai parlé, seul film réalisé par Marlon Brando. Donc, Les Révoltés du Mounty, c'est quand même à voir, c'est pas un film à rejeter. Par la suite, encore 3 ou 4 films sans intérêt. Et puis, en 1966, La Poursuite impitoyable. Alors, c'est un film d'Arthur Penn. Et Marlon Brando fait un shérif, mais un shérif qui est contesté dans sa petite ville. Et il est passé en particulier à tabac de manière assez violente pour l'époque. Et une scène est frappante parce qu'elle peut être rapprochée d'une autre. Le shérif donc est battu par les citoyens et il va être sur son bureau et il va glisser de son bureau et il s'étale de son bureau par terre. Et vraiment, on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Et on retrouve exactement cette scène dans Le Parrain, quand on lui tire dessus, qu'il sera gravement blessé. De même, pour le capot de la voiture, il glisse sur le capot de la voiture, comme il glissait sur le bureau dans le film La Poursuite impitoyable, The Chase. Donc, critique sociale qui est effectuée par Arthur Penn, et film qui est important. Alors, avant d'arriver au film suivant, on va quand même faire un saut dans le temps et passer la musique du Parrain. Alors, le Parrain, surtout la musique, et pas toutes les chansons qui se sont greffées dessus. La chanson principale, qui est absolument nulle, parce que ça n'a aucun rapport avec le Parrain. Bon, ceci dit, voici la musique sans chanson, heureusement. Donc, par la suite, nous avons quelques années où un ou deux films vont émerger et les autres ne seront pas intéressants. Alors, je relève simplement un film dont on aurait pu attendre beaucoup, La Comtesse de Hong Kong, parce qu'il est réalisé par Charlie Chaplin. Dernier film de Chaplin en 1967. Malheureusement, rien à dire, il est complètement raté. Marlon Brando n'a aucun intérêt dans le film et tous les acteurs non plus. Malheureusement, c'est un grand créateur. Comme souvent, les grands créateurs vont un petit peu pédaler à la fin de leur carrière et faire des films médiocres, un peu comme Jacques Tati d'ailleurs a pu le montrer. Alors cependant, il faut isoler certains films, en particulier Reflet dans un œil d'or de 1967, c'est quand même signé par John Huston. Et à l'époque, c'est aussi un sujet assez délicat à traiter, mais qui l'est de manière remarquable dans le film. Marlon Brando joue un officier qui est marié à quand même Elizabeth Taylor, mais il n'a plus de relation avec elle. C'est effectivement une absence de rapport. Et il va essayer de dissimuler son homosexualité, mais il est quand même amoureux d'un soldat. Donc tout cela crée un personnage comme les aime Brando, c'est-à-dire ambigu, avec un film qui est un petit peu polémique. Ensuite, on peut retenir Quemada en 1969. Alors un film, là encore, qui n'est pas très connu, mais qui est assez remarquable sur l'idée de colonisation et de décolonisation, avec quand même un contrôle économique de l'ancien colonisateur. En fait, donc Brando est en charge du dossier révolte, si on peut dire, et il va jouer un double jeu, c'est-à-dire essayer de mettre en avant les esclaves pour qu'ils se défendent et affirment leur indépendance. Et en même temps, il veut essayer de mettre en avant son gouvernement pour diriger l'État. Donc ce film Quemada est vraiment pour l'époque assez original et assez intéressant. Alors Marlon Brando est en perte de vitesse. Il va tourner quelques films qui n'ont vraiment strictement aucun intérêt. Et puis on a Le Parrain. Alors Le Parrain c'est 1972. Marlon Brando n'a plus aucune reconnaissance, aucun succès. Et Coppola va l'imposer pour Le Parrain. Ce qui s'est passé, c'est que Brando va, pour montrer comment il peut être le personnage, se bourrer les joues de coton et composer un visage original. Et il va emporter l'affaire de cette manière-là. Il va prendre en main le rôle du parrain. Donc, Le Parrain, c'est un succès commercial. Alors, à l'époque, il faut savoir que la critique l'avait fortement descendu, en considérant que c'est une production commerciale. Et il a fallu qu'au fil du temps, ça se décante. En particulier, on a vu que Le Parrain 2 était assez extraordinaire, et Le Parrain 3 aussi. Donc du coup, Le Parrain est devenu lui aussi un film culte, alors qu'à l'époque, les critiques l'avaient quelque peu ignoré, voire descendu. Et la réussite du Parrain se montre aussi au fait que les véritables mafieux vont copier les attitudes, le costume du Parrain. Et là, c'est la réussite absolue. Quand on arrive à ce niveau-là, le film n'est pas contestable. Donc, Le Parrain, c'est vraiment un chef-d'œuvre de Coppola et une réhabilitation, en quelque sorte, de l'acteur Marlon Brando. Alors, Le Dernier Tango à Paris. Alors là, c'est un succès de scandale. On trouve un personnage qui semble aller à la dérive parce qu'il a eu un décès et il part dans les rues. Et il va rencontrer le personnage joué par Maria Schneider. Alors Maria Schneider devient son amante et il y a une scène qu'on pourrait qualifier de viol. En tout cas, aujourd'hui, MeToo, ce serait du viol et ce serait complètement écarté, descendu, critiqué. Alors effectivement, on a toujours soutenu que le réalisateur et l'acteur s'étaient mis d'accord en quelque sorte sur le dos de Maria Schneider pour cette scène-là. Cette scène-là, c'est tout simplement une sodomisation de Marlon Brando, enfin de Maria Schneider par Marlon Brando, et qui va utiliser une plaquette de beurre. Donc à l'époque, c'était quand même extrêmement particulier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que ça le reste. Dans Le Dernier Tango à Paris, un succès plutôt de scandale qu'autre chose. Alors, nous avons ensuite alors, un film très original, à nouveau un western, mais qui n'est pas réalisé par Brandon, qui est réalisé par Arthur Penn. Il faut savoir qu'Arthur Penn avait réalisé aussi Little Big Man. Donc, ce film, qui s'appelle Missouri Breaks, réalisé par Arthur Penn, va permettre de rencontrer, tenez-vous bien, Marlon Brando et Jack Nicholson. Voici la musique. On néglige parfois Missouri Breaks. C'est un film remarquable. Le sujet est le suivant. Un voleur de chevaux, joué par Jack Nicholson, va essayer de s'installer pour avoir une base arrière avec comme voisin un ranch dont la jeune femme va tomber amoureuse de lui. Mais ce vol de chevaux, c'est quelque chose qui énerve son père. Et donc il va engager un tueur. Le tueur, c'est Marlon Brando. Alors, le duel des deux monstres sacrés est assez impressionnant. Il y a une scène qui est assez originale où Marlon Brando est dans une baignoire et Jack Nicholson à l'extérieur. Et Nicholson dit à Brando qu'il va certainement le tuer, s'en débarrasser. Et Brando se tourne et montre son dos. Et effectivement, Jack Nicholson ne tire pas. Et là où Marlon Brando va être, je dirais, en totale liberté, certains vont dire une trop grande liberté, il va se déguiser pour les différentes phases de son intervention. Il se déguise même, à un moment donné, en vieille femme. Et certains ont dit que Marlon Brando allait peut-être un petit peu loin. Pourtant, il est dans son personnage, en étant un tueur un petit peu psychopathe. Ça correspond tout à fait à ses changements de costume. Autre fin originale, on est habitué dans le western à ce qu'il y ait un confrontement entre les deux personnages. Là, en fait, on a Marlon Brando qui se couche, c'est la nuit, et tout d'un coup, on entend une voix, Jack Nicholson lui disant « Ce que tu as senti, c'est c'est ta gorge qui a été coupée et ton sang qui va couler. » Donc là, pas du tout de régularité, de code de l'Ouest, mais une mort infligée par Brando aussi de manière toujours violente, et ici par Nicholson. On a d'ailleurs la particularité de voir les personnages qui vont être tués, c'est-à-dire les membres du clan de Jack Nicholson, on les voit dans le flou. Et quand on les voit dans le flou, en réalité, c'est Brando qui les surveille et sa jumelle. Et on le voit tirer de loin, on voit quelqu'un qui est tué, mais sans qu'on fasse tout de suite la liaison avec Brando, même si on sait que c'est lui qui est derrière le flou ou les jumelles. Donc, Missouri Breaks, c'est un film, je dirais, à revaloriser, un film qui comporte vraiment des scènes remarquables. Les deux acteurs sont vraiment au sommet de leur art. Donc, Missouri Breaks, c'est un film qu'il faudrait voir. Alors, après celui-là, il y a Apocalypse Now. Apocalypse Now, on ne peut qu'écouter d'abord un petit peu la musique avant de l'évoquer. Apocalypse Now, c'est vraiment le dernier film à retenir de Marlon Brando. Alors, Coppola veut Brando. Brando, à ce moment-là, demande des sommes folles pour intervenir. Et Coppola accepte. Et quand Brando va venir, ils vont passer une semaine à discuter, à parler du personnage. Il va évoquer... différents ressorts psychologiques, enfin tout à fait la personnalité de Brando. Donc déjà, le film de Coppola a des difficultés. Tourné au fond de la jungle, Apocalypse Now a du mal à être achevé. Il y a plein de péripéties qui remettent en cause le film, ne serait-ce que l'acteur principal qui devait être Harvey Keitel, qui est remplacé par Martin Sheen. Pardon. Donc la préparation est assez difficile. Et en plus, comme Brando a déjà des problèmes de poids, on ne peut pas le filmer debout, en train de se promener. Donc, on le filme dans l'ombre, la tête rasée, le crâne rasé. Et peu importe que son personnage ait grossi, il y a une ombre qui le cerne en permanence et qui permet d'ailleurs d'accroître l'aura mythique à la fois de Brando et du personnage. Donc, la manière dont il est filmé sera une manière particulièrement originale. Alors, à partir de là, il y a, je dirais, 20 ans oubliés. Voilà. Après Apocalypse Now, Il y a une vingtaine d'années pendant laquelle Brando va tourner, mais tourner rien du tout. Je prends l'exemple de Superman. Superman, il joue le père de Superman, qui s'appelle Jor-El, et il a quelques minutes de jeu. Il va toucher des sommes énormes pour ses quelques jours de parution dans le film. Donc Brando, je dirais, il ne fait plus rien. Il se contente de demander des cachets exceptionnels. Et si par hasard on les lui accorde, à ce moment-là, il va venir jouer. Donc, je ne cite même pas de film après Apocalypse Now. On pourrait en relever peut-être deux ou trois, on saurait peut-être deux ou trois, mais à mon avis, je préfère m'arrêter sur Apocalypse Now, qui est vraiment un film original, un film violent, un film réussi, où Brando fait une prestation tout à fait remarquable. Donc voilà pour cet acteur tout à fait admirable, Marlon Brando 2, et on ne peut que souligner que c'est, allez, disons-le, c'est le meilleur acteur du monde. C'était Cinéma Cinéma de Jacques Viguier. Avec à la technique Léo Tourault. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.